journal des idées, Jacques Munier.
Et c'est d'ailleurs dans la nature de la démocratie, contrairement au système monolithique qui ne cherche qu'à se perpétuer à l'identique, que de renouveler ses formes pour s'améliorer et s'adapter aux évolutions historiques et sociales. Dans les pages débat de l'Obs, Omar Sagui évoque la pensée du philosophe américain John Dewey à l'occasion de la parution chez Gallimard d'un recueil de ses écrits politiques. Pour celui qui écrivit en 1937, rien n'est plus radical que de promouvoir les méthodes démocratiques comme moyen d'effectuer des changements sociaux radicaux. La démocratie n'est pas seulement une fin, elle est une méthode et une pratique quotidienne. L'article que cite le politologue est paru dans Common Sense en janvier 1937 sous le titre « La démocratie est radicale ». Il est étonnant compte tenu de la situation internationale et notamment de la manière dont les régimes totalitaires se réclament alors de la notion de démocratie alors qu'aujourd'hui elle est vilipendée pour sa faiblesse et identifiée à un Occident en pleine décadence morale par les turiféraires de l'État autoritaire. Les dirigeants de l'Union soviétique, écrit John Dewey, annonce que grâce à leur nouvelle constitution, ils ont créé la première démocratie dans l'histoire. Presque au même moment, Goebbels annonce que le socialisme nazi est la seule forme de démocratie possible dans le futur. Même si personne, ailleurs qu'en Allemagne, ne peut prendre au sérieux une telle affirmation, c'est l'occasion pour le philosophe d'examiner la nature de la démocratie dite « bourgeoise » dans laquelle s'est réalisé l'idéal d'émancipation, de liberté et d'égalité consubstantielle à l'idée démocratique dans les pays qui l'ont effectivement mise en œuvre. Par bourgeoise, précise le philosophe, il faut comprendre une démocratie dans laquelle le pouvoir est en définitive entre les mains de ceux qui dominent le capitalisme et la finance. Avec l'industrialisation, l'expression politique de la libre entreprise économique a pris le nom de libéralisme. Ceux qui en ont ainsi usurpé l'appellation ont défendu le maximum d'actions économiques individualistes avec le minimum de contrôle social. Face à cela, seuls les moyens de la démocratie peuvent être mobilisés. Les transitions autoritaires et autres hypothétiques dictatures du prolétariat n'ayant démontré que leur capacité à s'éterniser. Le principe fondamental de la démocratie, affirme le philosophe, est que les fins de liberté et d'individualité pour tous ne peuvent être atteintes que par les moyens, des moyens en accord avec ces fins. Pardon. Soit notamment la liberté de croyance, d'enquête, de discussion, d'association, d'éducation, ce qu'il appelle l'intelligence publique par opposition à toute coercition, y compris celle qui prétend s'exercer en faveur de la liberté ultime de tous les individus. Il dénonce au passage l'hypocrisie intellectuelle et la contradiction morale aussi bien chez ceux qui affirment que la dictature de classe, au moins temporaire, est nécessaire, que chez ceux qui soutiennent que le système économique actuel est un système de liberté d'initiative et d'opportunités pour tous. Conclusion, la fin de la démocratie est une fin radicale, car rien n'est plus radical que de promouvoir les méthodes démocratiques comme moyen d'effectuer des changements sociaux radicaux. L'article de 1923 sur l'éthique dans les relations internationales est également d'une grande actualité. Comment se fait-il, demande le philosophe, que la morale des hommes ait si peu d'effet sur l'attitude des nations les unes par rapport aux autres? S'il est vrai que la communauté du sentiment morale existe même parmi ceux que divisent leurs croyances morales intellectuelles, alors la loi internationale proscrivant la guerre produirait les mêmes effets moraux de cristallisation quant aux relations internationales que ceux que la loi a opérés partout ailleurs dans son développement historique. La communauté du sentiment moral, c'est désormais toute la question dans nos démocraties modernes, rongées par le communautarisme identitaire, quel qu'il soit. Sur l'excellent site « En attendant Nadeau », Alain Policard rend compte du livre de Dominique Schnapper de la démocratie en France, République, Nation, Laïcité, publié chez Odile Jacob. La sociologue interroge l'échec du modèle républicain en soulignant les discordances dans les différentes dimensions de l'intégration. La distinction entre intégration culturelle et intégration structurelle, dont Alain Policard rappelle l'origine dans la sociologie américaine des relations internationales, interethniques, met l'accent sur cette réalité. On peut, lorsque l'on est issu de l'immigration, être culturellement intégré, c'est-à-dire capable de manipuler les modèles culturels de la société d'accueil, sans pour autant accéder aux instances de la vie collective et aux échanges sociaux, en restant largement marginalisé. La discussion porte alors notamment sur la pertinence d'une discrimination positive, supposant l'existence de statistiques ethniques, où Dominique Schnapper pressent le risque d'une essentialisation au détriment d'autres catégorisations significatives. Le débat est ouvert et c'est exactement ça la démocratie.